Les titres du journal.
Et au sommaire de ce journal, un Corse qui rend hommage à Raymond Poulidor, le coureur cycliste est mort cette nuit. Nous parlerons aussi de la violence et du débat à l'Assemblée de Corse. Ce sera pas avant mars 2020. Nous verrons aussi cette polémique sur le nom des élus présentés comme proches ou connaissant des personnes proches du grand banditisme. Nous verrons ce qu'en pense le collectif Maxime Souzine. Il sera aussi question de votre quotidien avec la taxe d'habitation. A-t-elle vraiment baissé ? Comment vit une commune quand elle est endettée ? Exemple d'Ozagne. Et puis, comme tous les midis, la Méditerranée et le sport au menu de cette grande édition.
Ce journal vous est présenté par Didier Arnoux. Bonjour.
Bonjour. Et on débute avec la mort d'un grand nom du cyclisme. Raymond Poulidor est mort. Poulidor, éternel second derrière Jacques Anquetil, mais grand champion, légende du sport français au fil d'une carrière entamée en 1960, terminée à plus de 40 ans. Quand les vélos pesaient une tonne et que les coureurs changeaient les boyaux de leurs roues sur le bord des routes, 8 fois sur le podium du Tour de France, jamais premier, sauf dans 189 autres courses quand même. Raymond Poulidor avait un lien particulier avec la Corse, des liens surtout tissés à travers une amitié très forte qu'il entretenait avec Alfred Soli, le président fondateur du comité Corse de cyclisme et du vélo club de Porto Vecchio. Ce dernier était d'ailleurs au chevet de Raymond Poulidor avec sa famille au moment de son décès cette nuit. Une amitié née en 1964 lors de la deuxième participation de Raymond Poulidor à une étape en Corse, étape alors intégrée à la course Paris-Nice. C'est l'épisode de Teguim que raconte Alfred Soli au micro de Jean Pronette.
Raymond disait toujours Alfred c'est mon frère. Mais au-delà de cette amitié et de cette affection fraternel, il y avait le sublime Raymond Poulidor. 1964, c'est la fameuse année de Teguim. Teguim où Raymond a accompli, selon ses dires, le plus grand exploit de sa carrière dans la montée de Teguim, où il a fait un contre-la-montre au-delà de ce qu'on peut espérer que puisse réaliser un puncheur de cette trame.
C'était une étape du Paris-Nice à l'époque, c'est ça ?
C'était l'étape du Paris-Nice. Donc, Jacques Anquetil et les autres, les Rudy Altig et j'en passe, étaient loin derrière dans la montée de Teguim. Bon, malheureusement, la portière d'une voiture de presse, malencontreusement ouverte dans le au début de la descente, a fait que Raymond a été tout droit et que il a été contraint à l'abandon. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, j'ai mis toute mon âme pour réaliser une sculpture qu'on allait mettre en place avec Raymond et la municipalité de Bastia et avec nos amis Henri Angelot et Jean-Marc Angelot.
En souvenir de cette étape.
Un souvenir de cet exploit passé inaperçu et surtout faire de Teguim un lieu de rencontre pour les cyclistes, pour des moments que nous avons tous vécu humblement dans notre cyclisme amateur. Le projet devait se mettre en place là après le Tour de France. Cette sculpture, les autorités de Limoges voulaient qu'elle soit installée au vélodrome Raymond Poulidor. Mais Raymond Poulidor, vu son attachement pour ses amis corse et pour la Corse, était d'accord avec moi pour qu'on mette en place ça dans la descente de Teguim.
Est-ce que ça se fera quand même en hommage à Raymond Poulidor ?
Oui. Oui, on avait prévu avec Mathieu, vous savez que son petit-fils, c'est la grande étoile montante du cyclisme international. Et avec David et leur maman Corinne, nous allons mettre en place cette sculpture et nous allons faire un espace Raymond Poulidor. Raymond Poulidor m'a en quelque sorte inspiré ma devise, l'un des plus grands plaisirs du vélo, c'est de le faire aimer aux autres.
Alfred Soli au micro de Jean Pronette.
RCFM, midi, midi et demi, l'info.
L'Assemblée de Corse ne tiendra pas sa séance publique sur les dérives mafieuses avant mars 2020. Un débat public au sein de l'hémicycle avait eu lieu au lendemain de l'assassinat de Maxime Souzine. À l'unanimité, les élus avaient décidé de tenir une session extraordinaire consacrée à la reprise de la violence, aux dérives mafieuses. Finalement, les travaux n'auront lieu que l'an prochain, autrement dit après les élections municipales. Décision prise collectivement par le président de l'Assemblée, les présidents des différents groupes, leur volonté, se donner le temps de préparer les débats avec des données objectives sur l'existence d'une mafia et son action exercée dans l'île. notamment dans le monde économique. Différents responsables des services de l'État et des personnalités seront auditionnés. C'est ce qu'explique Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée, au micro de Maxime Beckmer.
Auditionner les membres de la société civile, notamment les deux collectifs qui se sont constitués, mais également le président de l'Assemblée de Corse, Dominique Bocchini, qui était également président de la commission violence, donc lors de la mandature 2010-2015. Entendre également les responsables de la magistrature, de la police, s'agissant des prérogatives régaliennes qui sont aujourd'hui exercé par l'État, et puis entendre sans doute des experts internationaux. Donc il s'agit, et encore une fois c'est une décision unanime de la conférence des présidents, de se donner tous les moyens d'information possibles avant de délibérer sur un diagnostic et sur un plan d'action.
Est-ce que la collectivité de Corse peut prendre des mesures pour lutter contre les délits mafieux ?
La collectivité de Corse ne dispose pas des prérogatives régaliennes, la police, la justice, c'est l'État, mais a des leviers en matière de développement économique. On sait qu'il y a des liens entre l'économie et ce type de dérive que beaucoup dénoncent et qui inquiètent une grande partie de la société corse.
Et en marge de cette décision, il y a les propos tenus par Marie-France Giovannangeli sur notre antenne en fin de semaine dernière qui font des vagues au nom du collectif Mafiano. Cette dernière citait un certain nombre de noms d'élus en lien plus ou moins direct avec des personnes supposées appartenir au grand banditisme. Première à réagir, Patrick Winchegar, la présidente du groupe La Corse dans la République à l'Assemblée de Corse. Valérie Botti qui parle de dérive, voire même de dérapage.
Aujourd'hui, comme hier, déclarait Marie-France Giovannangeli, on trouve une proximité entre des élus et des personnes qui ont été soit impliquées, soit dont les noms sont revenus très souvent dans des problèmes de gangstérisme importants. Et la porte-parole du collectif Mafiano dégrainait les noms de plusieurs personnalités politiques. Jean-Guy Talamogne, Paul Jacob, Jean-Charles Lorsouch et donc la maire de Crozet-Oprougne, Madame Boz, je cite, fille d'une mairesse qui a été assassinée, elle-même sœur d'un membre connu de la bande du Petit Bar. Valérie Bozzi se dit profondément choquée et meurtrie, précisant qu'avocate et élue depuis 10 ans, elle n'a jamais été condamnée.
J'ai été attaquée personnellement, d'autres élus aussi, et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'ensemble des élus, voilà, qui sont élus au suffrage universel, qui sont respectables et qu'on doit respecter. C'est une présomption de culpabilité qui a été insinuée et même précisée par cette personne.
Valérie Bozzi et les autres élus qui ont reçu le soutien de la Ligue des droits de l'homme, qui s'inquiètent de la répétition de ces dérives dangereuses pour les personnes citées. Condamnation aussi très ferme du président de l'Assemblée de Corse. Je ne peux laisser sans réaction, écrit dans un communiqué Jean-Guy Talamogne, cette attitude qui consiste à donner des noms en pâture sans aucun fondement autre que la rumeur. A noter tout de même qu'à ce jour, aucune des personnes citées n'a déposé plainte en diffamation.
Alors pour parler de ces noms lancés, jetés en pâture, du report aussi de la session de l'Assemblée de Corse sur la violence, dans ce journal en direct de Cargès, Jean Toussaint Placenzotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des figures de proue du collectif Maxime Souzigne. Premier point, l'Assemblée qui reporte à 2020, normalement mars 2020, après mars 2020, son débat sur la violence, sur les dérives mafieuses. Comment vous l'interprétez ? Est-ce que c'est de la sagesse de ne pas réagir à chaud ou est-ce que c'est reculer pour moins sauter, peut-être ?
Alors, on ne va pas faire de procès d'intention. Si l'Assemblée veut se donner du temps pour réfléchir sur un problème d'une extrême gravité, il faut donc saluer cette décision. Si c'est pour botter en touche par rapport au municipal, ce n'est pas une bonne chose. On se plaint depuis des années de l'omerta. Ben nous, avec les collectifs, on montre que c'est un stéréotype des Corses, qui ne colle pas avec la réalité. On souhaiterait être soutenu par les élus. Si les élus veulent prendre le temps de la réflexion, c'est très bien. S'ils veulent nous entendre, c'est encore mieux. Il faut que les choses se fassent sérieusement parce que le sujet le mérite. Cela dit, inviter Monsieur Bocchini, sur cette question nous paraît une chose totalement inutile. Lorsqu'il était présent à l'Assemblée, il a fait une commission violence. Or, la violence et la mafia, ce sont deux choses différentes. Si la mafia utilise la mafia, ce n'est pas que de la violence. Parler de violence, c'est noyer le poisson, c'est mélanger les féminicides et les crimes mafieux. Il faut parler de la mafia. Le sujet, c'est la mafia et uniquement la mafia. S'il y a d'autres sujets à traiter, on peut faire d'autres sessions. Il faut appeler un chat et parler des choses sérieuses.
Mais vous parlez de...
Monsieur Bocchini a toujours refusé de recevoir les associations qui défendait la terre corse et qui voulait parler des pressions mafieuses qu'elle subissait, il n'est pas qualifié aujourd'hui pour parler de cette question. Il est à la retraite, qu'il y reste.
Alors ça, c'est votre sentiment, mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les initiatives ne sont pas bonnes? On voit qu'il y a deux collectifs qui sont créés autour de la violence, autour de la mafia, autour de cette société qui est en train de partir à la dérive totalement. Dominique Bouquigny, en tant qu'ancien élu, peut aussi avoir son regard. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont légitimes? Je précise ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont légitimes pour parler de la violence et d'autres qui ne le sont pas?
Alors, aujourd'hui, les plus légitimes, ce sont les victimes. Qui sont les victimes? Eh bien, ce sont les Corses. Monsieur Bouquigny, je ne vais pas polémiquer là-dessus, il a eu ses responsabilités, il aurait pu faire des choses, il ne les a pas faites. Bien, maintenant, il y a des gens qui se lèvent pour s'opposer à un danger mortel pour notre pays. Eh bien, il y a des gens qui parlent, et les gens qui parlent maintenant sont même critiqués. Voilà, hein, ce sont les gens qui s'en prennent à la démocratie. Non, aujourd'hui, le danger est grave, les gens parlent, on les écoute. Maintenant, si ce qu'elles disent, si c'est ce que disent ces personnes est faux, eh bien, il faut le démontrer. Nous, nous disions que c'était une bande criminelle organisée qui a assassiné Massimo. Bien, maintenant, après 2 mois, la justice va s'occuper du dossier, elle nous donne raison, on a mis du temps. Bien, c'est une première étape concernant les noms qui sont soi-disant jetés en pâture.
Alors, est-ce que c'est sain de balancer des noms comme ça, qui sont jetés en pâture?
Attendez, on ne va pas utiliser le terme de balancer, ce sont les voyous qui balancent, hein, qui utilisent ce terme. Il y a des noms qui sont écrits dans les livres de M. Folleroux, dans les livres de Mme Costanti, dans des articles du Monde, dans des articles du Point. Il y a M. Talamone qui déclare le 8 octobre 2011 que la mafia, il déclare que la mafia n'est pas seulement la grande délinquance, mais le lien entre banditisme, économie et politique, et plaidant pour la création d'un organisme territorial de contrôle des fonds publics, donc ils sont au pouvoir depuis 4 ans, peut-être qu'il a mis en place, peut-être qu'il contrôle les fonds publics. Monsieur Talamone, il déclare qu'il y a des liens entre la mafia et la politique. Bien, donc, il y a des gens qui le disent. Si c'est la vérité, et je vous dis, et je vous répète, c'est déjà dans des articles du Monde, ces articles du Monde et ces livres n'ont pas été attaqués par les personnes mises en cause. On n'a pas dit M. Folleroux a balancé ou il a jeté des noms en pâture. Il a fait une enquête, il a donné des noms, il a expliqué, etc., etc. Ils n'ont jamais été attaqués. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes en Corse qui disent des choses qui, pour elles, sont la vérité. Si ce n'est pas la vérité, il faut que les personnes en question disent en quoi ce n'est pas la vérité. Un point, c'est tout. La question n'est pas de la mise en cause. La mafia est une réalité. C'est une réalité humaine avec des gens de chair et de sang, des gens qui tuent et des gens qui profitent et des gens qui s'accaparent du pouvoir en Corse et des gens qui laissent faire et des gens qui regardent ailleurs et des gens qui sont complices. Ça, c'est la réalité. Et les Corses sont les premières victimes. Alors, les Corses ne devraient pas avoir à parler, à dénoncer cette situation et juste subir et attendre qu'on vienne les tuer à la maison comme on est venu tuer Massimo Susini au moment où il allait travailler. Il faut à un moment donné qu'on se dise les choses. Les problèmes, en partie, ce sont les Corses qui doivent les régler, en partie. Mais tout seuls, ils n'y arriveront pas. Alors les Corses se sont mis en mouvement pour tenter de régler des problèmes. Ils le règlent par la parole. On voudrait aussi les empêcher de parler. Ce n'est pas possible.
Deux collectifs contre la violence. Alors, un historique, un habituel, disent les mauvaises langues. Et on entend, ah oui, mais un tel roule pour telle politique, un tel veut une place sur une liste. Quel sera votre positionnement pour les prochaines élections? Est-ce que le collectif va rester apolitique?
Alors, non, bien sûr qu'on est un collectif politique, rien n'est apolitique. Le crime de Massimo Susini est un crime politique, c'est un crime qui vise à prendre le pouvoir, c'est évident. De collectif, nous le disons, ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons que chaque micro-région de Corse ait un collectif, que tout le monde fouille, que tout le monde surveille les marchés publics, que tout le monde regarde ce qui est de l'ordre de l'intérêt public et de l'intérêt
après,
commun.
Et après, voilà. Tout simplement, Sanzotti, et après, on fait quoi?
Après quoi? Après, mais vous avez des services. Moi, je n'ai pas l'autorité. Je n'ai pas l'autorité de la violence illégitime. Je n'ai pas la maîtrise des magistrats. Ça, c'est l'État qui l'a. Je ne suis pas journaliste d'investigation. C'est de ça dont on aurait besoin. Nous, on fait notre travail, de citoyen jusqu'à la limite de ce que peut être un citoyen. Vincent Carliotti a déclaré lors de l'émission Inquiesta, si l'État ne s'occupe pas des mafieux, à un moment donné, les mafieux et les Corses vont se trouver face à face. Qu'est-ce qui va se passer? Les Corses, pour le moment, se battent avec la parole. C'est quand même, en démocratie, la chose la plus importante. C'est même ce qu'il y a de plus important pour l'humanité, la parole. C'est la seule chose gratuite encore dans ce pays. Maintenant, il y a des autorités qui sont, il y a des gens qui sont payés par nos impôts, il y a des gens qui sont les représentants de ce peuple à un moment donné qui doivent aider les Corses à se protéger et réduire la mafia à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une criminalité marginale comme toutes les sociétés l'ont aujourd'hui. La mafia, tellement elle ne trouve pas d'opposition, elle avance au point où elle prétend avoir le pouvoir en Corse. Voilà.
Merci tout. Jean Toussaint Placenzotti, membre du collectif Maxime Sousigny.
RCFM, toute l'info.
Et l'info, c'est aussi les faits divers avec un hold-up. Hier après-midi à 17h45 à Bastia, dans une boulangerie des quartiers sud, un homme armé et cagoulé s'est fait remettre le contenu de la caisse sous la menace. Il a pris la fuite avec près de 1000 euros en liquide correspondant à la recette de la journée. Au chapitre social, toujours pas de courrier à Bastia, San Martino et Santa Maria di Lodre. Ville de Petra Bougnon aussi, c'est aujourd'hui le 20e jour de grève au centre de distribution de Bastia Cap Corse. Les personnels dénoncent une réorganisation interne qui pourrait conduire à la suppression d'une dizaine de tournées et donc de plusieurs postes. De son côté, Jean-Michel Roca, le directeur du courrier et colis à la Poste de Corse, indique que la direction a pourtant fait des efforts puisqu'on est passé de 10 tournées supprimées à 3, propositions rejetées par la CGT. On parle finance maintenant avec une question. La taxe d'habitation baisse-t-elle réellement cette année? Pour la plupart des foyers, oui. Après une baisse d'un tiers en 2018 sur les résidences principales, la taxe d'habitation connaît une nouvelle diminution de 2/3 cette année. Près de 80% des contribuables sont concernés. En 2020, l'exonération sera totale. Pour les 20% de foyers restants, il faudra en revanche attendre 2022 pour ne plus payer de taxe d'habitation. En Corse, les guichets des centres des finances publiques sont actuellement en prix d'assaut. Il ne reste en effet, Maxime Beckmer, que 2 petits jours pour payer.
À l'accueil du centre des finances publiques d'Ajaccio, presque toutes les visites concernent la taxe d'habitation.
J'ai des problèmes avec le site, du coup ils viennent régler ça directement ici.
Une taxe qui baisse encore cette année, en moyenne moins 371 euros pour la Haute-Corse, moins 375 euros pour la Corse du Sud.
Pratiquement de moitié, oui, il y a 30% de moins. 30% l'année d'avant, 30% cette année, donc c'est pas mal. Et puis donc je pense que l'année prochaine il restera que l'audiovisuel.
Pour d'autres, il peut y avoir quelques anomalies, des exonérations qui n'ont pas été prises en compte.
Ça ne marche pas très bien, parce qu'ils me font payer deux fois. Les calculs de base sont très compliqués, il faut sortir de Polytechnique. Je vais aller au centre pour essayer de régler ce paiement qui est en plus.
En cas de mauvais calcul, pas de panique, il suffit de se rendre au centre des impôts le plus proche où le remboursement sera immédiat. Mathieu Caillot, secrétaire du syndicat FO Finance.
On voit les contribuables venir au guichet, pourquoi? Parce que pour certains, ils pensaient ne plus avoir de taxe d'habitation. Pour d'autres qui ne payaient pas de taxe d'habitation ces dernières années, il se peut très bien qu'ils en doivent une cette année, alors qu'ils pensaient qu'elle avait disparu.
La taxe d'habitation aujourd'hui en constante évolution, mobilise de plus en plus les agents.
La taxe d'habitation, voilà, ce sont des données qui évoluent d'année en année. Une résidence secondaire qui devient principale ou inversement. Donc, on a besoin de collègues pour calculer la valeur locative des biens immobiliers. Que répond la direction locale des finances publiques? C'est que l'usager, il a le site internet impôts.gouv pour répondre à toutes ces questions.
Les contribuables ont jusqu'à vendredi pour s'acquitter de leur taxe.
Et notez que l'intersyndicale des finances publiques appelle les agents à être en grève demain. Le journal Le Figaro a publié une enquête sur les villes de 10 000 habitants les plus endettées de France. 52 d'entre elles sont en grande difficulté. Encore si Bastia et Ajaccio sont très loin dans ce classement, c'est du côté des petites communes que les difficultés se font parfois sentir, ressentir, avec des dettes qui atteignaient fin 2018 plus de 9 000 euros par habitant pour Ozani et Awapes. En tout, plus d'une vingtaine de ces petites communes affichent une dette dite élevée. Si les chiffres peuvent apparaître inquiétants, la plupart du temps, il s'agit en fait de périodes de creux entre la prise d'un emprunt et la perception de subventions. Les conséquences sont quasiment nulles pour les habitants, mais c'est quand même compliqué à gérer, surtout pour les petites communes, explique François Alphonse, le maire d'Ozagne, à Marion Galland.
En tous les cas, pour ce qui concerne une commune comme la mienne, qui a eu à gérer ces 3 dernières années des investissements très lourds, c'est-à-dire l'assainissement que nous avons fait sur Durolac, et aussi l'acquisition d'un bateau pour assurer la desserte maritime du hameau. Nos budgets communaux, évidemment, sont sans proportion. Et donc, comme les subventions sont importantes, on peut réaliser l'investissement. frustrante. Mais en attendant, il faut payer l'entreprise pour faire en sorte que l'on puisse ensuite toucher la subvention, puisque ce n'est qu'une fois que la dépense est effectuée que la subvention peut être versée. Donc, on est amené à faire à ce moment-là un emprunt de trésorerie, qui est un emprunt qui pour la commune a été de 700 000 euros, donc une somme importante, mais qui est un emprunt transitoire uniquement lié à cette nécessité technique de pouvoir payer les entreprises ou les fournisseurs avant de percevoir les subventions qui nous sont promises. Et évidemment, après, quand on fait un ratio par habitant, on obtient des chiffres qui apparaissent aberrants.
François Alphonse, le maire d'Auzagne, joint par Marion Galland. Une initiative maintenant, celle de personnes qui ont décidé d'ouvrir un institut à Ajaccio. La présentation, c'est cet après-midi, 15h, Vivario. C'est un institut qui est en lien avec la Méditerranée et qui va travailler déjà sur plusieurs thèmes, notamment le vin, avec une première masterclass. Jean-Luc Moraccioli, bonjour.
Bonjour.
Cette masterclass, c'est pour qui et pourquoi ?
Alors, cette masterclass, c'est... Alors, pour qui d'abord ? C'est à la fois pour pour des échanges avec les viticulteurs corses, on va dire, haut de gamme, mais aussi, dans l'excellence plutôt, je préfère ce mot-là, mais aussi pour des étudiants de l'université, puisque l'objectif... lorsque ces viticulteurs du Champagne ont proposé de venir, on s'est dit, on va organiser une masterclass parce qu'on veut qu'il y ait de l'éducation et de la culture. Il faut qu'il y ait des échanges avec les viticulteurs de Corse parce que vous, Champagne, vous êtes dans les filières du luxe et vous pouvez amener nos viticulteurs dans cette filière-là à travers le monde. Et puis, ça s'est enchaîné puisque une rencontre avec Christophe Storail a fait que des étudiants ont souhaité venir, des enseignants, et on s'est dit, ben oui, on peut être effectivement en Champagne et ailleurs, où on a pu tisser des réseaux, des terrains de stage pour les étudiants. Donc c'est vraiment une masterclass qui va déboucher sur des échanges, sur des partenariats, et puis sur des échanges de savoir-faire surtout, parce que en Corse, les produits du terroir sont montés en excellence très très vite.
Alors quel pourrait être l'avenir de cet institut, ses liens, ses retombées concrètes ?
Alors, l'institut que nous allons implanter sur Ajaccio, c'est l'histoire de 30 ans d'éducation. Pour faire vite, ça va être un institut qui est à destination du pourtour méditerranéen, puisqu'il y en a un au Maroc qui va être à destination du continent africain. Il y a un Reims, où j'habite aussi, qui est à destination de l'Europe du Nord et de l'Est. Et les trois vont travailler ensemble. Et ici, en Corse, donc, ça va être un enseignement qui va être donné par quelques-unes des 386 personnalités dont des prix Nobel qui travaillent avec nous. Et l'idée, c'est vraiment de faire que cet institut soit un écosystème dans la ville. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des entreprises, notamment celles qui seront là aujourd'hui, sur l'idée que l'éducation aujourd'hui ne peut plus être efficiente si on ne travaille pas avec les gens des entreprises, et je ne parle pas là du plan économique, mais du savoir-faire, des compétences, parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel on est, on a besoin d'être dans le mouvement du monde, et seuls les gens qui sont, et on voit très bien là avec les viticulteurs par exemple, tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est démarche au niveau de la chimie, de la réflexion aussi de l'aménagement du territoire, parce que ça c'est une question essentielle aussi. L'école n'amène pas ça. Or aujourd'hui, dans un cursus scolaire, on a besoin d'avoir ces réflexions-là.
Vous plaidez, et ce sera, il nous reste une petite trentaine de secondes, vous plaidez pour la création d'écosystèmes, de développement durable, de réseaux. L'avenir passe obligatoirement par là ?
Oui, l'avenir passe par là. Aujourd'hui, je crois que les compétences, et encore son voix, je prends le cas de l'université, par exemple, où il y a des gens d'une compétence extraordinaire, les enseignants, et puis des gens passionnés. Je pense qu'effectivement, l'université, par exemple, serait un service réellement public pour alerter les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sur ce qui se passe dans le monde, sur les mouvements, les grands mouvements économiques et tout ça. Je pense qu'effectivement ça pourrait booster une économie, et qu'aujourd'hui il faut être proche du territoire, Et l'enseignement, l'éducation doit être au cœur de ces sociétés, justement pour ces raisons-là.
Merci Jean-Luc Moraccioli. On change maintenant de sujet. Une invitée, une médaillée, Marie-France Andréaud, si responsable des maraudes de la Croix-Rouge, a reçu la médaille de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Elle est au micro de Maxime Beckmer.
Marie-France Andréaud dit bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez de recevoir le titre de chevalier de l'Ordre du Mérite, la médaille du Mérite, une distinction pour votre engagement au sein de la Croix-Rouge de Corse du Sud, mais aussi pour tout votre parcours humanitaire. Combien d'années que vous êtes au chevet des plus précaires ?
Depuis une quinzaine d'années, je suis engagée dans la Croix-Rouge en tant que bénévole et dans l'association Père Apache.
Alors, on imagine que vous êtes un témoin privilégié de l'évolution de la précarité, de la misère en Corse et notamment à Ajaccio.
Oui, oui, oui. Et mon engagement, il a commencé avec un peu l'espace Alban, les nouveaux SDF qu'on voyait dans la rue, et il y a eu un drame. Et à partir de là, je me suis engagée avec un petit comité. On a créé le premier abri de nuit. Et puis tout de suite après, les premières maraudes hivernales de la Croix-Rouge. Donc ça fait une quinzaine d'années.
On a le sentiment aussi qu'il y a une multiplication, mais il y a des personnes dans la rue, des SDF, ils sont plus nombreux qu'il y a 15-20 ans.
Oui, évidemment, surtout chez nous en Corse. Je vous dis, il y a 15 ans, ils étaient une dizaine à l'espace Alban, vraiment concentrés sur ce centre-là. Et puis de plus en plus, il y a eu des personnes âgées, il y a eu des femmes, il y a eu des enfants et des jeunes Corses, beaucoup de jeunes Corses qu'on s'en pas compte, mais il y en a beaucoup.
Donc c'est surtout le profil de ces personnes sans domicile fixe qui a évolué.
C'est ça, c'est le profil et l'âge. Et des locaux, beaucoup de locaux.
Et aussi des personnes aussi sans domicile fixe qui viennent du continent, parce que la misère moins pénible au soleil, c'est quelque chose qui se vérifie aussi sur le terrain, malheureusement.
Oui, alors ils viennent d'abord pour faire des saisons, certains. Hein, et puis après, ils deviennent précaires parce qu'on leur donne pas de logement, parce qu'ils trouvent pas de travail. Et puis après, il faut dire que Ajaccio, tout est à échelle humaine. Donc ils ont tout de suite les organismes sociaux, ils ont tout de suite l'abri de nuit, ils ont tout à... Et alors que sur le continent, ils ne retournent pas parce que c'est des grands centres, ils sont perdus. Et ici, c'est beaucoup plus facile.
Quel remède, quelle solution à la précarité ?
La solution, si je l'avais, ça serait bien. Déjà, il y a des CHRS, des centres d'hébergement. Il y a le centre d'hébergement d'urgence, il y a des accueils de jour. Il manque des maisons d'accueil, il manque des points relais, il manque des choses comme ça. Mais ça, c'est politique. Il faut les installer.
Il y a suffisamment de social, de mesures sociales d'urgence pour les plus démunis, pour les cas, entre guillemets, les plus désespérés?
Suffisamment, il n'y en a jamais assez, on dira, on en demandera toujours, mais il y a quand même un bon réseau sur lequel ils peuvent s'appuyer. Mais comme ils sont en croissance, et il faut encore plus de logements. Quoi.
Des places d'hébergement d'urgence dans les foyers, est-ce qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui?
Non, il n'y en a pas pour tout le monde, mais tout le monde n'en veut pas aussi. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les foyers, qui attendent d'avoir des logements, hein, des logements sociaux. Et ça, c'est un peu restreint en ce moment. Mais bon, je pense que ça va se mettre en place. Il y a un regard différent, ne serait-ce que pour la Croix-Rouge. On a quand même obtenu trois postes d'éducateurs spécialisés pour faire les maraudes et en même temps ils font des maraudes de jour. Donc il y a quand même des budgets qui sont mis en place pour aider, pour être au plus près de ces gens-là et les ramener vers le soin ou vers leurs problématiques sociales.
Pour tout ce qui concerne les maraudes, il y a aussi cette problématique de trouver suffisamment de bénévoles pour les maraudes de la Croix-Rouge notamment.
C'est la problématique du bénévole, c'est ça. C'est pas une problématique, c'est un état de fait. C'est que les gens sont disponibles un temps, sur un temps donné aussi, et donc on est toujours en quête de bénévoles, et s'il y a des bonnes âmes qui veulent nous rejoindre, c'est bien volontiers.
Il faut réussir à fidéliser, je dirais, ce bénévolat.
Oui, il faut le fidéliser. Il y en a beaucoup qui sont là depuis des années, mais il nous faut tellement, comme on fait une maraude pérenne tous les jours de l'année, donc il nous faut tellement de monde pour pouvoir subvenir, parce qu'ils sont trois par maraude, pour pouvoir subvenir à toutes les maraudes, que plus on est, mieux c'est. Et puis c'est confortable pour tout le monde.
Qu'est-ce que vous demanderiez en premier lieu au pouvoir public, à la collectivité de Corse, à l'État, en termes de mesures sociales ?
Des centres d'hébergement plus nombreux, parce qu'il en manque. Hein. Et puis des maisons relais, des maillons, il y a la maraude, il y a l'accueil de jour, il y a l'abri de nuit, enfin le centre d'hébergement d'urgence. Il y a des CHRS, des centres d'hébergement, et il manquerait des maisons relais.
Marie-France Andéraud dit merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.
Merci beaucoup à vous.
Et on parle maintenant de sport. Un sacre, un titre de champion du monde pour un Corse, c'est pas tous les jours. Ce sacre, c'est celui du jeune pilote de Porto Vecchio, Pierre-Louis Loubet, 22 ans, champion du monde des rallyes WRC2. Pierre-Louis Loubet qui était déjà en Australie pour la dernière course et c'est dans sa chambre d'hôtel qu'il a appris la nouvelle. La course a été annulée. Il la commente au micro de Jean Pronette.
RCFM, le sport.
On est quand même très contents. Après, c'est sûr que vu les circonstances, c'était un petit peu particulier. On n'a peut-être pas pu fêter le titre comme on le pensait au début, mais à la fin, voilà, on a quand même ce titre et c'est plus important.
Après, c'est pour l'image, pour le symbole. Comme tout compétiteur, évidemment, vous avez envie d'être sacré sur le terrain du sport, le lieu de la compétition. Ça aurait pu être la Catalogne, ça aurait pu être l'Australie. C'est entre les deux et dans votre chambre d'hôtel.
Voilà, c'est ça. Mais bon, dans quelques années, je m'en rappellerai plus, j'espère. Donc voilà.
Vous l'avez ce titre, c'est le plus important, on l'a dit. Puis il y a eu ces deux victoires consécutives après un début de saison difficile qui vous a mis dans le bain, vraiment.
Ah ouais, c'est sûr qu'après le Tour de Corse, j'étais quand même, on peut le dire, en difficulté. C'était encore très mal passé en Corse, donc la situation était un peu compliquée. Et après, bon voilà, on s'est bien relevé, on a réussi à gagner Portugal, Sardaigne, coup sur coup. Et après, la machine était lancée. Et dans l'ensemble, on a été ensuite très performants. Ça s'est bien passé avec la voiture et moi, j'ai fait moins de fautes. Forcément, ça paye.
On n'osait pas en parler avant. Le titre, maintenant, il est là. Pierre-Louis Loubet. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on a une idée d'ores et déjà de ce que ça peut ouvrir comme porte ou pas?
Mais disons que j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, maintenant, c'est pas moi qui décide pour le futur et j'ai pas encore de piste sûre. On a des discussions. Après, ça se décidera un petit peu plus tard, je pense.
Votre objectif premier, quand on est pilote comme ça, évidemment, c'est d'intégrer le gratin, le championnat du monde WRC.
Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place. On va essayer de s'en faire une.
Si d'aventure ces portes-là du WRC ne s'ouvraient pas, quelle serait votre possibilité autre?
Aujourd'hui, le WRC 2, le R5, c'est une catégorie qui se développe beaucoup. Donc, on va voir s'il y a des opportunités. Mais bon, pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou. On va surtout apprécier ce titre. Et j'espère vraiment pouvoir vous en dire plus par rapport à mon futur bientôt. Mais pour l'instant, j'ai pas de piste assez sûre, que ce soit